Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà le sens de l'immobilier, parce qu'il faut bien trouver un sens à l'immobilier, et bien malin celui qui trouvera le sens en ce moment dans les orientations politiques du logement. C'est bien le but de cette émission, d'essayer de décrypter l'actualité. On va parler notamment du Conseil national de refondation, dont les travaux vont être resitués voilà, dans quelques jours, pour accueillir justement ce sixième numéro, cette sixième édition du Sens de l'immobilier. Je suis accompagné de Fabrice Coustet, notre journaliste. Comment ça va, Fabrice ?
Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Également avec nous, Yannick Borde. Bonjour Yannick Borde.
Bonjour Sylvain.
Yannick Borde, maire de Saint-Berthevin dans la Mayenne et dirigeant du groupe immobilier Procivis Ouest, et vous êtes le président du réseau national. Merci d'être avec nous Yannick. Gros sujet autour du CNR, c'est l'objet de l'édito tout de suite après ça.
Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis.
Fabrice Coustet, le CNR va rendre ses conclusions le 9 mai prochain. On est tous sur des charbons ardents. On va d'abord faire un petit rappel de ce que c'est que le Conseil national de la refondation, Fabrice.
En effet, Sylvain, le CNR, le Conseil national de la refondation, accouchera-t-il d'une souris ou aboutira-t-il à de réelles avancées pour résoudre les problèmes du logement en France ? Le ministre délégué au logement, Olivier Klein, a en tout cas promis des annonces dans les prochains jours, après une réunion de travail avec le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, et la Première ministre, Elisabeth Borne. Vous avez peut-être suivi, de nombreuses propositions sont sur la table, portant sur les trois thématiques retenues pour ce CRR, ce NR qui a été lancé fin novembre 2022, qui s'est achevé il y a plus d'un mois, à savoir redonner aux Français du pouvoir d'habiter, réconcilier la France avec la production de logements nouveaux et faire du logement l'avant-garde de la transition écologique. Les conclusions seront rendues le 9 mai et après les cris d'alarme poussés par la FPI, Fédération de la promotion immobilière, la FFB plus récemment, se sont coup sur coup ce week-end. Véronique Bédague, la patronne de Nexity, et Geoffroy Roux de Bézieux, président du MENEF, qui se sont exprimés. Dimanche, la première a lancé à nos confrères du JDD un avertissement sur un choc d'une violence folle sur le logement. Il y a depuis plusieurs années pas assez d'offres, on ne construit pas assez, nous dit-elle. Invité quant à lui dimanche du grand jury RTL-LCI Le Figaro, le numéro 1 du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a voulu lui pousser un cri d'alerte sur le manque de construction de logements en France, affirmant que le pays va au-devant d'une catastrophe sur ce sujet. Ça devrait même être le grand sujet du quinquennat, a-t-il dit. Choc, catastrophe, cri d'alarme ou cri d'orfraie selon certains. Après un épuisant chapitre sur les retraites pour le gouvernement comme pour le pays, la bataille du logement va-t-elle enfin être lancée ? Les enjeux et les menaces sont-ils enfin perçus au château ? Avec l'emploi menacé, on parle de 100 000 postes supprimé d'ici 2025 selon Olivier Salleron, et la menace d'une crise de type gilet jaune, le gouvernement va-t-il enfin réagir ?
Voilà un programme haut en couleur pour cette 7e édition. On va passer maintenant au grand entretien avec Yannick Borde, ici présent, tout de suite après.
Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis.
Yannick Borde, vous vous êtes beaucoup exprimé à la télévision récemment et sur notre antenne. Heureusement qu'il y a des professionnels comme vous qui prennent en main le destin de cette politique du logement. Je voudrais juste resituer, faire un peu d'histoire avec vous. Vous nous avez invités très généreusement et très gentiment au vœu de Procivis. Et ce jour-là, une phrase a été prononcée par Olivier Klein, vous vous en souvenez. Le logement pourrait être la prochaine bombe sociale, elle est peut-être même déjà là. À l'instar de ce qu'a dit de façon très virulente Geoffroy Roux de Bézieux, ainsi que Véronique Bédague et tous les grands professionnels, notamment le directeur général du groupe Altarea Cogedim, Jacques Herman, qui s'est ému bien évidemment de cette absence de politique, que faut-il aujourd'hui en tirer pour voilà, lancer ce premier débat ?
D'abord, il faut avoir à l'esprit que depuis 2017, on nous a servi régulièrement une notion qui était le choc de l'offre, qui n'est jamais venu. C'est-à-dire la capacité à construire de façon plus rapide, plus importante, en lien avec les besoins des territoires, ça n'a pas marché. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a des raisons qui sont dues à la politique nationale, il y a des raisons qui sont dues à des contextes locaux, on pourrait y revenir. Ce qui est nouveau depuis quelques semaines, quelques mois, les prémices, c'est septembre et une accélération assez forte en fin d'année depuis le début de cette année, c'est qu'on ne construit plus. Et on a en même temps un effondrement de la demande ces derniers temps, qui est dont on voit à peu près les causes. Un, c'est on est dans un secteur d'activité où les gens ont besoin d'être en confiance pour investir. Et là, on a une confiance avec le climat social, avec tout un tas de facteurs qui fait que la confiance des ménages est entachée. On a un impact inflation, coût énergétique également qui a attaqué le pouvoir d'achat. Et puis on a un impact taux d'intérêt qui fait qu'en l'espace de 4-5 mois, les ménages ont perdu quasiment 20-25% de capacité d'investissement, qui fait que la demande s'est complètement écroulée. Ce qui est assez inédit, d'avoir à la fois des grosses difficultés de construire, et puis une demande qui chute de façon phénoménale. Alors qu'en même temps, à l'exception de quelques derniers récalcitrants dans une grande maison des bords de Seine qui pensent qu'il n'y a pas besoin de logement dans ce pays, je pense que les prises de parole fortes de ces derniers jours de gens qui n'étaient pas habitués nécessairement, le président du MEDEF sur la question du logement, on l'entend quand il y a des actions sur le logement, mais on l'entend pas nécessairement très souvent sur le sujet. Ces paroles fortes, en fin de compte, elles témoignent aussi de deux choses. Un, c'est que aujourd'hui, tout le monde est unanime dans la profession pour dire trois points. Il y a besoin de logement dans ce pays. C'est pas évident, parce nous, on l'affirme sans arrêt, mais moi, j'aimerais bien que l'État le dise.
Yannick Borde, les journalistes ont posé la question. Vous dites qu'il y a un effondrement de la demande, et en même temps, vous dites qu'il y a un problème de logement. Donc, il y a presque une opposition. Est-ce qu'il faudrait peut-être spécifier pour ceux qui nous écoutent, Yannick Borde, que c'est pas un effondrement de la demande, mais peut-être de la demande solvable?
Oui, on peut peut-être dire que c'est celle-ci.
Mais la question de la confiance. Parce qu'il y a toujours, on a un problème de logement. On est d'accord dans ce pays.
On a un problème de logement.
Les gens ont du mal à se loger. Donc, il devrait y avoir une appétence au logement.
Il y a une appétence pour le logement. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a tout un tas de facteurs macroéconomique à côté de nous, entre ceux issus de la crise internationale avec l'Ukraine et tout ce qui en a découlé, l'inflation, les taux d'intérêt, qui fait qu'effectivement le pouvoir d'achat logement, il est très fortement attaqué, à la fois dans son fonctionnement, dans son investissement. Il y a l'augmentation des taux d'intérêt où on est passé de autour de 1 à pratiquement 3 ou 4% aujourd'hui. C'est 20-25% de capacité d'investissement en moins. Et puis une charge logement qui augmente pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire à la fois la mensualité de son emprunt quand on est en accession à la propriété, sa charge énergétique quand on est dans sa copropriété ou dans son logement. Donc ce pouvoir d'achat, il est sérieusement malmené. Donc ça a mécaniquement un impact sur la demande. Mais la demande, je suis d'accord, on a capacité, je pense, à la resolvabiliser. Il y a un sujet majeur, on y reviendra sans doute, c'est le devenir du prêt à taux zéro sur ce point-là. L'offre, c'est quand même une incapacité structurelle depuis 2017 à arriver à décongestionner cette offre qui ne décolle pas. Elle s'est trouvée en plus abîmée l'année dernière, puisque les coûts de construction ont flambé et donc ils ont renforcé la difficulté de construire. On est un certain nombre d'acteurs, y compris dans notre réseau, mais je pense que c'est pareil.
Donc la conjugaison taux, inflation, augmentation des matières premières sur vos chantiers, c'est une triple peine finalement.
Oui, parce qu'aujourd'hui, les coûts de construction, ils ont quasiment pris 40% depuis février-mars l'année dernière. Quand vous prenez ce qui représente, dans une opération de base, entre 700 et 800 euros, quand vous rajoutez à ça tout ce qui s'impute sur les coûts de construction, aux variables, des honoraires, des assurances, etc., et la TVA, je dirais, vous avez déjà quasiment plus de 1000 euros qui sont venus du mètre carré, qui sont venus rajouter au coût d'opération. Donc à un moment donné, dans un marché qui était déjà très élevé en termes de prix, qui était déjà à notre niveau, on pense pour un certain nombre de cas au maximum, la répercussion sur le client, elle est impossible.
Yannick Borde, est-ce que
aujourd'hui les opérations sont compliquées à sortir?
Est-ce que les Français, Yannick Borde, aiment le neuf?
Je pense que les Français aiment le neuf. Je pense que les Français aiment l'accession à la propriété. C'est ça qui, je pense, manque au plus haut niveau de l'État, c'est de dire oui, dans ce pays, il manque de logements. Oui, dans ce pays, nous voulons favoriser une politique d'accession à la propriété.
Voilà. Mais parallèlement, est-ce qu'il y a des chantiers en ce moment qui sont arrêtés ou qui ne sortent plus, tout simplement, qui ne sont pas lancés?
Vous l'avez dit d'ailleurs sur cette antenne.
Vous avez
dit très honnêtement sur cette antenne, nous avons des permis purgés, instruits, et nous ne démarrons pas les chantiers parce que je ne ferai pas d'opération.
Nous ne pouvons pas faire d'opérations négatives. Les opérations qui ont été lancées, je pense qu'elles ne s'arrêtent pas. Parce qu'elles ont été lancées dans des conditions de marché négociées un petit peu avant, peut-être révisées un peu avec la crise sur les coûts de construction, ils étaient pré-commercialisés correctement, etc. Aujourd'hui, ce qui est engorgé, c'est la capacité à sortir ce qu'on a dans les tuyaux. Alors la capacité à sortir, ça veut dire quoi? Ou les difficultés pour les sortir? Ça veut dire, dans un certain nombre de cas, des difficultés sur la délivrance des permis de construire et les recours. donc un refus de construire de la part d'élus, de la part de voisins. Quand vous avez des élus qui ont voté des PLU et qu'on sait qu'aujourd'hui, des plans locaux d'urbanisme, quand on sait qu'aujourd'hui, on ne construit que 70%, étude FPI à peu près, de ce que les PLU permettent et que tout opérateur, et j'en fais partie et je le vis en ce moment sur un programme dont je tairai la ville, mais où on arrive avec un PLU, avec un projet et on nous rabote à chaque visite avec les élus en charge de l'urbanisme, un bout, un étage, après faut réduire, après je ne
et
sais quoi.
Et vous, en tant que maire de Saint-Berthevin, vous le faites pas ça?
En tant que maire de Saint-Berthevin, si je suis un maire bâtisseur. Et donc il y a un PLU, il faut bien le travailler.
D'accord. Mais alors ça veut dire que le PLU est adopté, donc est une mesure de droit public, absolument. Mmh. Donc ça veut dire, qui dit mesure de droit public, opposabilité, c'est-à-dire qu'en fait, si vous dites au maire ou vous l'enjoignez de respecter le PLU, vous serez entendu.
Oui, mais la relation des opérateurs immobiliers avec les collectivités, c'est pas celle du conflit.
Donc c'est de cela dont il s'agit.
Voilà, des acteurs, nous, de fabrication de la ville. Oui. Après, c'est les PLU qui sont parfois mal maîtrisés ou qui débordent un peu.
On ne peut pas être mal avec les élus locaux.
Oui, mais parce qu'on est des accompagnateurs de leur politique. Mais en même temps, sur la question de l'acceptabilité des projets immobiliers, il y a l'élu, mais il y a aussi l'environnement immédiat. Et aujourd'hui, la notion de recours, c'est quand même un sujet. La notion de recours abusif, je pense qu'il faut un peu montrer les dents aujourd'hui, les crocs, contre les gens qui font des recours abusifs. Il y a des textes de loi qui nous permettent d'agir.
Mais les efforts qu'a fait Julien de Normandie, qui a précédé Emmanuel Wargon, avaient porté leurs fruits sur la durée.
Oui,
sur
je
la
pense
durée.
Mais il faut aussi qu'on le fasse savoir, qu'on ne laissera pas faire.
Est-ce que les délais ont été respectés?
Oui, mais quand vous avez eu un permis de construire, par exemple, en fin d'année 2021, bien monté, bien une opération bien lancée, et que vous prenez un recours contre ce permis de construire, même si vous savez qu'il est complètement abusif, excessif, et qu'il n'y a aucune chance qu'il prospère, mais il vous fait perdre 6 mois, et qu'entre-temps, il se passe ce qui s'est passé dès 2022, vous avez votre économie du programme qui est complètement à l'envers. Donc, ce qui se passe, c'est que cette politique du logement, c'est un peu l'angle mort quand même de la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017. Je vous invite à aller sur le site elysee.fr, site célèbre. Vous tapez dans le moteur de recherche logement. Vous trouvez un discours du président de la République en référence au logement depuis 2017. Le discours suivant qui apparaît, c'est un discours de François Hollande.
J'apprécie beaucoup la nuance. On va rentrer dans le vif du sujet pour être très concret sur les travaux du CNR. Bon, vous dites en substance, le CNR, c'est quand même une bonne initiative, ça a le mérite d'exister, et on attend, vous êtes très attentif au sort du CNR. Et ce, malgré les différents rapports qui ont été publiés sur ces dernières années, parce qu'il y a eu, beaucoup de commissions, de rapports pléthoriques. Je songe notamment au rapport Ebsamen, entre autres, hein, mais il n'y a pas eu que ça. Et vous êtes très attentif là-dessus et vous en espérez beaucoup.
Bah déjà, moi, j'ai assisté à l'installation du CNR Logement.
15 novembre 2022.
Où il y avait tout le spectre de la famille du logement, c'est-à-dire des associations de locataires, des grands promoteurs, des fonciers, enfin tous les acteurs. Et les ministres qui étaient là, il y en avait plusieurs, on en a eu jusqu'à 4 à un moment donné, plus un ancien ministre, ont entendu la même chose. Tous les acteurs de la filière sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème dans la politique du logement. Alors après, il y a de temps en temps une petite dose de corporatisme qui ressort sans doute chez chacun d'entre nous quand on s'exprime. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour convenir que la politique du logement, elle ne marche pas. Après, donc, c'est vrai que du coup, il en ressort une grande attente par rapport aux annonces que Olivier Klein doit faire le 9 mai prochain sur les résultats du CNR. Si vraiment, à ce moment-là, il n'y a pas de mesures structurantes sur du long terme, parce qu'on est sur une économie de long terme.
Des dizaines, voire des centaines de propositions ont été faites. Combien espérez-vous, Yannick Borne, que le ministre retiendra pour les défendre auprès de Matignon?
Moi, je vais pas répondre en nombre, Sylvain, parce que d'abord, je suis pas certain que la technique qui consiste à produire 1000 mesures soit la bonne. Aujourd'hui, il faut être sur du structurant.
Je vais reformuler ma question. Quelles seraient, selon vous, les 3 propositions à mettre en œuvre demain matin?
Le premier paquet, c'est une réponse immédiate sur le devenir du prêt à taux zéro et la suite du dispositif Pinel. Et pas une mesure pour 2023, pour 2024. Une mesure pour les 5 prochaines années. Et qu'on nous dise que ce qu'on monte aujourd'hui comme projet et ce qu'on structure comme investissement, eh bien, on est stabilisé sur ce qu'on pourra présenter et proposer à nos clients. Et ça, c'est crucial.
Alors, juste qu'on rappelle à nos auditeurs, prêt à taux zéro, c'est un prêt bonifié.
C'est un prêt à 0% financé, les banques, le fonds de montage.
C'est l'effet de levier, hein, faut le rappeler.
C'est l'effet de levier pour l'accession à la propriété.
Voilà, c'est le coup de pouce à l'accession à la propriété.
Avec un différé d'amortissement, avec
des mécanismes. Vous demandez une forme de rescrit fiscal finalement, 6 années de stabilité.
Bah, oui, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un foncier, le premier jour où vos collaborateurs vous amènent une adresse et un terrain à regarder, si tout se passe bien, il y aura des habitants dessus dans 5 ans. Donc, si on n'a pas, c'est-à-dire deux années et demie, si ça se passe moins bien, pour monter et obtenir les permis, les appels d'offres, etc., 2 années pour construire, voilà, avec un petit couac au milieu, ça fait entre 4 et 5 ans.
Ça correspond à la temporalité, finalement, de votre métier. Quelle serait alors, quand vous dites PTZ, est-ce que vous incluez là-dessus l'élargissement ou la pérennité de dispositifs fiscaux pour l'investissement immobilier?
Je mets un peu dans le même groupe.
Vous avez compris,
hein. Je mets un peu dans le même groupe toutes les mesures d'accompagnement dans la construction de la. Donc le PTZ en est un pour l'accession à la propriété, okay. Et la suite du Pinel à travers ce statut du bailleur privé, dont on peut penser qu'il fera partie de la liste qu'annoncera le ministre.
Le statut du bailleur privé
qui consiste... En remplacement du dispositif Pinel.
Qui consiste à reconnaître en fait l'amortissement généralisé
des investissements
personnes physiques ou personnes morales.
Exactement. Hein, c'est un peu l'idée que porte presque toute la profession avec des nuances.
Ce qui redonnerait du pouvoir d'achat aux propriétaires.
Exactement.
Pour faire des travaux, d'amélioration,
etc.
Ça serait valable pour le neuf aussi.
Ah, il faut que ce soit valable pour le neuf.
D'accord. Ok. Oui. Alors élargissement. Vous avez parlé du zonage.
Deuxième
vous
sujet.
Vous voulez une réforme du zonage.
J'y crois pas trop sur le zonage pour issu du CNR, parce que le zonage.
Ah bon. Pourquoi?
Parce que d'abord le zonage, il cumule un handicap majeur, c'est que c'est un raisonnement d'abord très techno. Puis après, ça devient très vite un raisonnement très politique. Donc, il faut une impulsion politique très forte. Moi, j'ai eu l'occasion, lors de mes rendez-vous avec certains cabinets ministériels, de dire que c'était un dossier de début de quinquennat immédiat, si on voulait reprendre le zonage, parce que ça devenait très vite politique et on ne pouvait pas s'embarquer là-dedans dans un quinquennat bien avancé. Donc là, je pense qu'on est dans déjà, on commence à être un peu limite par rapport à ça en termes de calendrier. Le zonage, il est essentiel parce qu'aujourd'hui, le zonage qu'on a, et c'est un peu la deuxième mesure que nous on plaide...
Il n'est pas un peu obsolète
Il est complètement obsolète sur son raisonnement, il est complètement obsolète sur sa cartographie.
Mais
et surtout...
Oui, démographiquement,
oui,
dans le
démographiquement, économiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le zonage, il faut... Aujourd'hui, ce qu'il faut réconcilier, c'est logement et emploi. On a oublié. Et d'ailleurs, dans les propos du président du MEDEF, on décode un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance économique et le développement d'un certain nombre d'entreprises, certes, c'est freiné par la difficulté des entreprises à trouver des salariés. Et quand elles trouvent des salariés dans un certain nombre de territoires, c'est freiné par la capacité de ces salariés à se loger.
Mais dites-moi, quand vous entendez un signal qui dit que ALS, Allocation Logement Service, devient une institution publique, ça doit vous faire bondir.
Oui, je sais pas. On est un peu dans la technique. Moi, je plaide pour qu'il y ait une clarification définitive sur tout l'environnement Action Logement pour qu'on soit dans la stabilité, de la sérénité par rapport à l'apport qu'il doit avoir. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que là où il y a des besoins de développement économique, là où il y a du développement économique, là où il y a des entreprises qui peuvent s'installer, il y a une vraie politique de l'habitat qui s'accompagne. Et le zonage aujourd'hui, les différentes zones ABC, les zones C par exemple, il y a un paquet de zones C sur lesquelles on a des taux de chômage extrêmement faibles et des difficultés pour les entreprises du territoire à se développer. Et en même temps, quand on a des zonages de ce niveau-là, on freine la capacité d'investissement des opérateurs tels que nous sur ce type de territoire. Donc nous, on est en train de dire qu'il faut pas supprimer complètement le zonage, mais le revoir, peut-être en s'appuyant sur l'expérimentation qui a été conduite dans la région Bretagne, où c'était plutôt un zonage, une stratégie territoriale un peu plus fine. Et en fin de compte, derrière tout ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit tout simplement que la politique du logement, tant continuera de l'avoir sur un angle strictement budgétaire et pas comme une politique sociale ou une politique d'aménagement du territoire, eh bien on se prendra les pieds dans le tapis comme on se prend les pieds dans le tapis depuis des années.
Comme dirait notre ami philosophe Thierry Pacaud, il faudrait l'appeler le ménagement du territoire, c'est-à-dire prendre soin.
Fabrice Cousset. Les dispositifs, je vous en ai parlé, Périssol, Besson, Robien, Borloo, c'est vrai qu'on a l'impression que voilà, les ministres passent, on a ces lois, on s'y habitue. Et puis, c'est déconstruit, c'est réaménagé. On a le Pinel qui est devenu Pinel Plus, qui a perdu progressivement de sa substance. Comment le renforcer?
Et qui a été une formidable mesure pendant plusieurs années, favorisant l'investissement immobilier.
Ce qu'il faut, là où... Alors,
ça doit vous sidérer quand vous dites, attendez, un Pinel qui a permis d'avoir une régulation modérée des loyers pendant une période...
C'est pas aussi évident que ça, parce que, par exemple, quand Julien Normandie était ministre et qu'il décide de supprimer le Pinel en zone B2, et de le maintenir en zone A et en zone B1, dans un échange que j'avais eu avec son cabinet, on leur avait dit, On a fait un peu d'études d'économie, on avait compris que l'État intervenait là où le marché avait du mal à réguler. Vous faites un peu l'inverse, donc ça risque d'être un peu inflationniste, gagné.
C'est bon, clair.
Ça, c'est comme ça que ça s'est, hélas, un peu passé. Après, on a un peu habitué chacun, ou on a perfusé chacun au soutien fiscal, donc je pense qu'il faut trouver une autre formule. Il ne faut pas arracher la perfusion quand même trop violemment, parce que ça peut être un peu compliqué pour
on
le marché.
On ne pourrait pas aujourd'hui retirer l'ensemble des béquilles, comme certains le préconisent?
Non, je pense qu'il faut donner par contre à l'acquisition immobilière une légitimité plutôt patrimoniale que strictement financière. Et c'est pour ça que la question de l'amortissement qui a existé, ça s'appelait le périsol. Oui. Le périsol, on n'était pas sur de la réduction fiscale, on était sur de l'amortissement dans le revenu foncier.
Et vous voulez revenir au tangible plutôt qu'au fongible.
Voilà, et c'est un peu ce qui est proposé là, avec une extension sur le parc existant, et puis avec une capacité à recharger l'amortissement et donc le gain fiscal, même s'il est mineur, parce qu'après, le revenu foncier, il dépendra du taux d'impôt de chacun d'entre nous, de recharger cette capacité à amortir en fonction des travaux, surtout dans un moment où on va voir des travaux importants arriver sur les copropriétés avec des ambitions de lutte contre la précarité énergétique. Si on donne ce levier fiscal aussi à ça, à cet investissement-là ou à cette dépense-là, on améliore à nouveau et on encourage un peu plus l'investissement. Donc, moi, je crois pas à une solution où il n'y ait pas d'incitation. Par contre, je pense qu'on doit avoir une incitation qui, un, replace le logement comme un élément de patrimoine et pas comme un produit strictement financier. Et puis, au passage, qui est peut-être un gain budgétaire aussi un peu pour l'État. Néanmoins, il faut quand même que l'État prenne en considération que d'arrêter le Pinel au 31/12/2023, c'est encore 2-3 années de génération Pinel qui arrive derrière. Parce que ce qu'on vend aujourd'hui en Pinel, ça va être livré dans 2 ans. Donc l'économie budgétaire, elle est plutôt décalé à 2 voire 3 ans pour la
baisse. Si la notion du statut du bailleur privé, c'est-à-dire de généraliser l'amortissement, même si j'ai observé d'ailleurs qu'il y a un changement de langage dans l'amortissement généralisé, la sanctuarisation, ça correspond... Alors, il y a deux leviers. Hein, il y a le levier fiscal, qui est celui, en fait, d'amortir une partie du bien. Donc, c'est-à-dire d'économiser sur ses revenus fonciers une partie à condition qu'éventuellement, ça soit du donnant-donnant. Notamment les travaux de rénovation et autres, mais aussi la fiscalité de la sortie, notamment sur le loyer de sortie, qui pose difficulté. Question, est-ce que, dans des mesures, vous seriez favorable à la déduction, par exemple, des intérêts d'emprunt pour la résidence principale? Est-ce que vous voulez faire aussi, comme l'a rappelé d'ailleurs dans l'édito, vous l'avez rappelé Fabrice, Geoffroy Roux de Bézieux, qui veut faire du logement, la nouvelle grande cause nationale, est-ce qu'on pourrait imaginer un grand ministère à la Jean-Louis Borloo, à l'époque où effectivement on avait des leviers puissants qui permettaient d'avoir une sanctuarisation d'une politique de logement pérenne dans le temps.
Ah, je pense qu'il va falloir... Le logement, c'est le premier poste de dépense de chacun d'entre nous. C'est un peu moins vrai quand on a fini de payer sa maison à peu près, mais sinon, tout au long de sa vie, c'est le premier poste de dépense des ménages.
Donc vous êtes favorable à une réduction de la TVA?
Je fais attention parce que je suis aussi, j'ai d'autres casquettes qui font où je suis assez prudent sur les finances publiques. Donc la question de...
Un produit de première nécessité comme le sucre,
oui, 5% peut-être, mais je pense qu'il faut faire attention à la façon dont on l'appréhende. Moi je pense que si on veut une politique d'accession sociale, ça mérite de travailler cette notion de TVA, peut-être de déductibilité des intérêts. Tout le monde n'a pas besoin de bénéficier de ces avantages-là nécessairement dans son opération d'accession.
Mais dans le bilan promotion, c'est-à-dire dans votre approche de la marge lorsque vous construisez, vous êtes d'accord que la réduction de 15 points de TVA pourrait être recyclée très favorablement aux acquéreurs eux-mêmes,
oui,
notamment les primo-accédants.
Elle l'est déjà dans un certain nombre de possibilités, puisqu'aujourd'hui on peut avoir de la TVA réduite quand on est dans des dispositifs d'accession sociale type le bail réel solidaire, type l'allocation accession, type l'accession sociale dans les périmètres de zone en rue. Donc il y a...
Oui, sauf que ce que vous nous dites là est très intéressant et c'est très novateur, mais c'est très marginal en volume par rapport à la demande elle-même.
Oui, mais après la politique, elle peut pas s'appliquer à mon avis à tout le monde pareil.
D'accord.
Voilà, donc soit on veut une grande politique du logement très universelle, après tout pareil, je pense qu'on n'en a pas nécessairement les moyens budgétaires, soit on veut qu'elle soit compartimenté suivant la typologie de population et dans ce cas-là l'accompagner. Je reviens une seconde sur le statut du bailleur privé. Donc nous on est très favorable à cette notion d'amortissement.
Personne physique comme personne morale.
Exactement pareil.
Parce que c'est déjà le cas pour les personnes morales.
Bien sûr, pour les foncières ça marche.
Les SCI, les SCI Alliés, d'accord.
Et elles peuvent opter pour l'amortissement. Mais et aussi peut-être un système qui parce qu'on sait que dans ce pays il y a aussi un sujet sur le niveau des loyers. Donc soit vous êtes investisseur privé, vous faites un effort sur votre loyer, vous faites un effort sur le plafond de ressources de votre locataire, peut-être que vous pouvez avoir une espèce de petit bonus d'amortissement. Voilà, qu'on ait quelque chose. Alors, pas très compliqué, il faut trouver la formule qui soit compréhensible et facile à suivre pour tout le monde, mais qu'on ait peut-être deux ou trois niveaux de palier de suivant ce que vous vous engagez à faire en matière de choix de locataire et de politique de loyer. Sinon, si on revient sur quelque chose qui est extrêmement libre, je pense qu'on a un petit problème quand même dans ce pays aujourd'hui de la cherté du logement, que ce soit en location.
On va justement rappeler quelques chiffres. Hein, ça fait plusieurs années d'ailleurs que vous alertez là-dessus. On se demande d'ailleurs même si c'est plutôt le résultat d'une politique défaillante au niveau des politiques publiques, depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et certains pensent même que c'est structurel. C'est-à-dire que depuis plus de 40 ans, on voit qu'il y a une déliquescence. J'allais dire que le seul sursaut que l'on a vu poindre durant ces 40 dernières années, c'est à deux périodes. On a eu la période Pierre-André Périssol et Borloo, sans omettre d'ailleurs la période de Pierre Mignonnery, qui a été un très très bon ministre du logement. En 2021, la part du PIB consacrée aux pouvoirs publics, par les pouvoirs publics au logement était de 1,5%, Fabrice. Le niveau le plus bas enregistré depuis 1982, c'est-à-dire plus de 40 ans. La Fondation AP Pierre avait déjà carrément dénoncé une page blanche. En 2017, on parlait d'un choc de l'offre. Depuis, les prix dans l'ancien ont bondi de 29% depuis 2017. C'est juste énorme quand on la compare à l'évolution du pouvoir, ou même du coup de la dégradation du pouvoir d'achat. Et la construction du neuf, donc forcément enrayée avec un repli des populations sur l'ancien, une compression absolument intolérable qui crée des situations sociales absolument incroyables. Moins de 375 000 logements en 2022, alors qu'il en faudrait plus de 150 000 de plus.
Oui, 450, 500 000.
Ouais. En 2020, 3 millions de ménages étaient en situation de précarité énergétique. Le poids du logement est passé de 27,8% en 2021. Il était de 20% en 1990 et seulement de 11% en 1960.
Un tiers de dépenses contraintes, c'est le logement finalement.
C'est le poste le plus contraint. Ça devient vraiment une situation, on va dire inquiétante.
Je voudrais revenir une seconde sur l'augmentation des prix qu'on a connue ces dernières années. En fin de compte, elle a été... il faut séparer, raisonner différemment suivant le secteur de l'existant et le secteur de la production neuve. Sur le secteur de l'existant, c'est le marché qui a fait ça, et le marché il a pu permettre ça. Pourquoi ? Parce qu'on avait des taux d'intérêt extrêmement bas, et donc on a consommé, si je puis dire, le gain de pouvoir d'achat provoqué par des taux d'intérêt très bas, par un accroissement de l'investissement. Voilà, donc c'est vraiment le phénomène qui a entraîné. Sur la construction neuve, c'est un petit peu plus compliqué, parce que sur la construction neuve, je pense pas que les marges des promoteurs ces dernières années soient améliorées, loin de là. Et c'est vraiment l'empilement des mesures de performance énergétique, de taille de logement, qui sont des mesures qu'on peut tous partager. Dire la loi climat résilience est passée par là. La loi climat-résilience, il faut quand même se rappeler qu'elle a été votée et approuvée, et qu'on l'a tous plus ou moins admis, dans un contexte de données macroéconomiques qui n'ont absolument rien à voir avec celle qu'on a aujourd'hui.
Absolument.
Donc aujourd'hui,
certains promoteurs avaient même devancé. Là.
Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens d'appliquer la loi climat-résilience avec les indicateurs macro d'inflation, de taux d'intérêt qu'on connaît aujourd'hui, au rythme où elle doit être appliquée, avec les ambitions qui doivent être celles de la loi climat résilient, je suis pas certain qu'on en ait franchement les moyens. Donc, dans la partie neuve, c'est vrai qu'aujourd'hui, estimer ou penser qu'on puisse arriver à faire baisser les prix de revient. Le prix de vente, la différence, c'est la marge. Mais le prix de revient de la construction neuve, aujourd'hui, sincèrement, on n'en voit pas le début.
Il nous reste 2 minutes pour conclure, et je voudrais qu'on puisse conclure sur des messages clés. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, puisque vous avez cité les 3 points sur lesquels vous focalisez, je rappelle, sanctuarisation du PTZ et du découlement, certains diront les niches fiscales, mais on va dire du booster fiscal permettant aux Français à la fois d'accéder à la propriété, mais aussi aux autres de se loger à des loyers mesurés. Comme on rappelait que le Pinel, c'était une manière de réguler les loyers. Une réforme du zonage, bon, on a compris que vous y croyez pas forcément beaucoup. Et bien sûr, le redéploiement du budget Pinel sur une prime première pierre. Et vous disiez d'ailleurs très justement la possibilité de sanctuariser cette politique. Pour sanctuariser constitutionnellement cette politique, Yannick Borne, est-ce que vous seriez favorable, en termes de conclusion un peu holistique, d'un grand ministère du logement de type régalien, avec une loi de programmation à l'instar de la police, de l'armée ou de la justice ?
Je pense que c'est plus qu'un ministère du logement, c'est-à-dire faut faire du logement la politique d'aménagement. une des composantes d'une politique d'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, c'est à l'heure de penser qu'on puisse développer tel ou tel territoire sans traiter la question du logement. Et comme en plus on est sur un cycle, nous, qui est un cycle long, je l'ai dit sur une autre radio il y a quelques jours, quand une entreprise arrive sur un territoire, l'offre de logement, elle va pas arriver comme ça d'un claquement de doigts très rapidement. Alors quand je disais qu'il fallait entre 4 et 5 ans pour avoir des habitants sur un terrain qu'on commence à regarder, voilà, c'est ça le rythme. Donc il y a eu de l'anticipation. Ce dont je suis certain, c'est qu'il ne peut pas y avoir de développement économique sans politique du logement dynamique sur un territoire. Et celles et ceux qui pensent que ça peut fonctionner, et notamment qui nous ressortent en permanence les logements vacants ou tout un tas d'autres stratégies assez obsolètes, se trompent et bloquent ce développement économique.
Merci Yannick Borde.
Merci.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Sens de l'Immobilier, parce qu'il faut mettre toujours du sens dans ce que nous faisons. On parle bien quand même du logement des Français, c'est-à-dire du premier indicateur et marqueur social dans une société moderne, libre, laïque et citoyenne. Merci Yannick Borde. Je rappelle que vous êtes maire de Saint-Berthevin en Mayenne et dirigeant du groupe immobilier de Procivis Ouest et président du réseau national Procivis. Merci Fabrice Coustet.
Merci Sylvain.
Et on va se retrouver bien sûr pour un prochain numéro du Sens de l'Immobilier, une collection que nous avons initiée avec vous, Yannick Borde, et vos équipes. Merci effectivement à nos équipes, Jason Pinero, Théo derrière la technique. Merci aux équipes de Procivis, Guillaume Machère ainsi que Maxime Taillebois qui ont présidé à la conception et la coproduction de ce numéro. Nous vous retrouvons bien sûr sur notre antenne. Vous likez et vous commentez largement sans aucune modération mais avec beaucoup de bienveillance. D'ici là, on vous attend bien évidemment le 9 mai, c'est le 9 mai, la restitution des travaux du CNR. Il se trouve bien évidemment que normalement nous devrions y être pour pouvoir essayer de vous donner les premières orientations en espérant pour vous, pour l'ensemble des professionnels de l'immobilier, qu'on y verra un petit peu la sortie de cette crise qui s'annonce et qui est vraiment pas drôle pour ceux qui veulent se loger en France. Merci Yannick Borde.
Merci.
Le sens de l'immobilier.